Vous écoutez On lit pour vous.
Ce qui nous fait du bien cette semaine. Un texte collectif paru le 17 avril 2026 dans la presse. Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours. Alouette, je t'écouterai, de Nathalie Collard. Je l'attendais avec impatience, le nouvel album des Louanges, et je ne suis pas déçu. Au-delà de l'excellente musique, ce sont les réflexions à l'origine de ce petit bijou qui m'interpelle. En entrevue, Vincent Roberge m'a touché avec ses propos sensibles sur la maturité, la masculinité et l'identité. God damn, voilà un jeune homme allumé, qui ne parle pas pour rien dire. Ma préférée de l'album, je confirme ma présence. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non, je côtoie la démence. Je tète le sein du diable qui m'allaite. J'entretiens ma dépendance. Cet album sera une de mes trames sonores de l'été, c'est certain. Le bagout du bagel de Judith Lachapelle. Paraît que la grosse tendance dans la restauration rapide américaine est un petit pain rond, dense et troué, que les Montréalais connaissent très bien. Le bagel. Dans un article du New York Times, on constate la croissance phénoménale du nombre de restaurants où le bagel est la vedette du menu. Comme les Américains boivent de plus en plus de café et de moins en moins d'alcool, la restauration matinale est dans la ligne de mire des investisseurs qui ont trouvé des façons de produire des bagels à la chaîne en escamotant les longues étapes de préparation, de fermentation et de cuisson traditionnelles. Tant mieux pour eux. Mais les millions investis ne changent rien à la prémisse. Les meilleurs bagels sont à Montréal. Point final. Le macaroni de ma fille, de Philippe Mercure. Ce mardi soir, dans mon propre foyer, j'ai perdu mon titre de roi du macaroni, écrit notre chroniqueur Philippe Mercure. Papa, c'est quoi ta recette de macaroni au fromage? Je lui ai expliqué les bases à partir desquelles j'improvise. Elle a suivi un moment cette partition approximative avant de partir en plein free jazz. À côté, je réagissais comme un réactionnaire devant la grande marche du progrès. De la crème en plus? Ça risque d'être un peu lourd. C'est vraiment beaucoup de poudre d'ail, ça, puce. Ah ouais? Du paprika? Elle a attendu que j'aie le dos tourné avant de verser son ingrédient secret. Quoi? Du miel dans le macaroni? Oh, mes amis, ce mardi soir, dans mon propre foyer, j'ai perdu mon titre de roi du macaroni. Mais je n'ai aucune amertume, car c'était le prix à payer pour toucher au sublime. Tiens, une nouvelle île, de Judith Lachapelle. Soudain, un vent mauvais s'est levé, et le navire de recherche Polar Stern, qui sillonnait la mer de Weddell en Antarctique, a changé de cap pour se mettre à l'abri. Au loin, une masse brune, invisible sur les cartes de navigation, se distinguait sur les flots. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Un iceberg à la dérive? Non, pas du tout. C'était une île. Une nouvelle île. Oh, pas une très grosse île, un rocher d'à peine 130 mètres de long, 50 mètres de large. Mais l'équipage de ce brise-glace de l'Institut Alfred Wegener, une organisation allemande qui se consacre à la recherche polaire et marine, aura l'honneur de lui trouver un nom et d'en revendiquer la découverte. C'était « Ce qui nous fait du bien cette semaine ». Un texte collectif paru le 17 avril 2026 dans la presse.
Le culte du chef. Un texte de David Ferguson paru le 28 avril 2026 dans la presse. Depuis les révélations du New York Times concernant René Redzepi, l'ancien chef du groupe de restaurants Noma, plusieurs se sont demandé « Pourquoi les cuisiniers ont-ils continué à travailler pour lui dans une cuisine aussi impitoyable et sans être payés en plus? » Voici les réflexions de David Ferguson, chef et propriétaire du restaurant Gus. Si l'on met de côté les menaces visant à ruiner la carrière des cuisiniers et celle de leur famille, il semble qu'il ait effectivement proféré de telles menaces, il existe une raison profonde pour laquelle les cuisiniers tolèrent un tel traitement. Les cuisines nourrissent un amour malsain pour leur chef. Cet amour n'est ni fraternel ni platonique. C'est l'amour d'une idole, d'une idée, d'une figure de proue couronnée de succès, vénérée par la société dans son ensemble et détenant le pouvoir ultime au sein de son restaurant. Cet amour se renforce chaque jour, car les cuisiniers trouvent leur propre valeur et leur triomphe dans les victoires quotidiennes de leur chef. Un bon service est célébré avec une bière. Si un nombre record de clients a été servi, une bouteille de champagne Paul Roger, oui, j'ai eu la chance de travailler dans un tel endroit, est partagée. L'équipe devient plus que la somme des individus qui la forment. À l'époque où les critiques élogieuses sur les restaurants paraissaient dans les quotidiens, le personnel de cuisine dévorait avec joie ces mots fraîchement imprimés. Chaque cuisinier cherchait à s'attribuer une part du mérite. « J'ai fait cette crème brûlée !» Aujourd'hui, la multiplication des listes des meilleures tables et l'attribution d'étoiles par un fabricant de pneus, à la demande et aux frais de notre gouvernement, maintiennent les cuisines dans un état d'alerte permanent. J'ai eu l'occasion d'en parler ici même en 2025. Le rôle du chef, en tant que leader apprécié, est de garder le contrôle sur un processus culinaire très fluide, impliquant de nombreuses personnes. Chaque assiette qui sort de la cuisine est son assiette, qui affecte sa réputation. La cuisine n'est pas une arène démocratique. Personnellement, je ne souhaiterais jamais manger des plats cuisinés de manière démocratique. Ne trouvez-vous pas, d'ailleurs, que les repas partage ou potluck donnent rarement lieu à des repas visionnaires? Ils manquent de cohérence et sont chaotiques. Ce que j'ai décrit, ce culte du chef, revêt un caractère plus fascisant. Même si cela peut paraître terrible à dire, les cuisines fonctionnent invariablement mieux lorsqu'elles s'appuient sur une structure hiérarchique forte où règne une adulation de la hiérarchie et de l'autorité. Malheureusement, il arrive parfois que les chefs abusent de l'admiration que leur porte leur personnel et contraignent les cuisiniers à faire des sacrifices personnels et physiques. Malheureusement, lorsqu'un chef jouit d'une grande renommée et que de jeunes cuisiniers aspirent ardemment à travailler sous ses ordres, au point de le vénérer, il arrive que s'installe une dynamique toxique. Et, à terme, la frontière entre le bien et le mal peut finir par s'estomper, tant pour le chef que pour les cuisiniers. J'ai travaillé un jour avec un sous-chef qui se vantait de briser psychologiquement les nouveaux cuisiniers, puis de les reconstruire. Comme si le nouvel employé était entré de son plein gré dans une unité de reprogrammation orwellienne. Ce sous-chef avait 21 ans et à peine un diplôme d'études secondaires en poche, mais il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait dans la cuisine. Ce sont souvent les subordonnés directs du chef, le sous-chef et ses semblables qui joue le rôle de pitbull en cuisine. Ainsi, le chef peut continuer de s'afficher comme une personne aimable et irréprochable. Ce système est dangereux en soi. Cependant, les cuisines dotées d'un leadership fort et d'une vision culinaire claire sont des lieux où les jeunes cuisiniers, comme je l'ai moi-même fait autrefois, ont envie de travailler et où les gourmets affluent aussi. Que fait-on pour limiter les dégâts? Pas grand-chose, en fait. Si un chef ne se contrôle pas et ne prend pas conscience du pouvoir qu'il détient, une culture malsaine finit bien souvent par s'installer. J'entends souvent parler de cuisine inclusive et de chefs désireux de créer des environnements sains. Mais lorsqu'un saumon trop cuit revient de la salle à manger, une grande partie des idéaux défendus sont en général balayés d'un trait par un chef au tempérament fougueux. Mea culpa. J'ai souvent déçu mon équipe, même si c'est moins le cas aujourd'hui. Aucun stress ne peut justifier une crise de colère excessive. Tout ce que nous, chefs, pouvons faire, c'est de rester vigilants et de toujours garder à l'esprit qu'on nous confie un grand pouvoir dans un petit espace et que nous devons l'utiliser pour le bien et non pour le mal. Malheureusement, beaucoup de jeunes gens talentueux ont quitté la restauration, non pas parce qu'ils n'aimaient pas leur travail, mais parce qu'ils ont rencontré un jeune sous-chef qui croyait pouvoir les briser. Et souvent, c'est l'unique chose qu'ils ont accomplie. C'était « Le culte du chef », un texte de David Ferguson, paru le 28 avril 2026 dans La Presse.
Discussion de poussette dans le vestiaire. Un texte de Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois, paru le 9 avril 2026 dans La Presse. Au gré de la reconstruction des dernières années, le Canadien s'est peu à peu séparé de ses joueurs les plus âgés. Le rajeunissement du groupe se constatait en un coup d'œil, mais il se vérifiait aussi plus subtilement. Au début de la saison 2024-2025, seulement 3 membres de la formation régulière, du moins à notre connaissance, étaient pairs : Joël Armia, Mike Matheson et David Savard. Malgré les départs d'Armia et de Savard, la confrérie des parents est aujourd'hui élargie à 5 membres avec l'ajout de Brandon Gallagher, de Josh Anderson et de Jake Evans, et vu le rapatriement de Philippe Dano, déjà papa 2 fois. Au cours des prochains mois, voilà qu'Alexandre Carrier, Samuel Montembeau, Noah Dobson et Nick Suzuki, tout bientôt, verront leur nuit de sommeil raccourcir, tandis que Gallagher accueillera son 2e enfant. C'est donc dire qu'en moins de 2 ans, 9 bébés flambant neufs auront commencé à dormir, emmitouflés dans leur coquille au Centre Bell pendant les matchs. Vu les exigences d'une carrière professionnelle qui implique notamment de longues absences de la maison, la majorité du fardeau logistique repose encore à ce jour sur l'autre parent. C'est ce qui fait dire à Philippe Dano que son épouse fait beaucoup de travail dans l'ombre avec leurs 2 enfants de 4 et 7 ans. Or, le stéréotype du père hockeyeur n'est plus aussi rigide qu'il était. Mike Matheson, qui est l'un des 2 seuls pères avec Dano dont les enfants ne sont plus des poupons, accueille en souriant les questions de ses coéquipiers. C'est drôle parce qu'après presque 5 ans comme parent, il y a des choses naturelles auxquelles tu ne penses plus, a-t-il raconté. Là, souligne Mike Matheson, les gars me demandent ce qu'ils doivent mettre dans le sac à couches quand ils vont quelque part. Ça Ça peut sembler insignifiant, mais quand tu ne l'as jamais fait, tu ne le sais pas. Alexandre Carrier confirme que la teneur des conversations entre coéquipiers a subitement changé. « On en parle pas mal. On est bien excités », s'exclame-t-il. « On est plusieurs gars dans la même situation. Avec d'autres qui en ont déjà, on se parle de trucs à acheter ou on se demande quelle poussette il faut apporter, par exemple. » Les discussions de poussettes se sont invitées à la fois dans le vestiaire et dans les soupers d'équipe, abonde Noah Dobson. « J'ai trouvé telle chose. As-tu trouvé ça? Comment s'est passé tel rendez-vous? » énumère le défenseur. C'est de la bonne camaraderie et c'est plaisant de le vivre avec ses coéquipiers. C'est une bonne distraction, ça nous amène à parler d'autre chose. Avis aux intéressés, Philippe Dano affirme qu'il pense organiser une vente d'ébarras pour libérer son garage d'accessoires de bébé. « Pour passer mes vieilles affaires aux gars », précise-t-il à la blague. « Mais peut-être pas tant que ça. » Maturité. De loin, Martin Saint-Louis ne rate rien de ce qui se passe dans son équipe. « Je l'ai vécu comme joueur à Tampa. C'est un signe de maturité », a-t-il estimé, il y a quelques jours lors d'un court entretien à ce sujet avec la presse. Ça témoigne du stade où ils sont rendus dans leur vie. Les gars se marient, fondent des familles. De tels événements au sein d'un groupe changent forcément la dynamique entre les jeunes et les vétérans, puisque ces derniers sont moins présents dans les activités du groupe hors glace lorsque le club joue à domicile. « Parce qu'ils ont plus de responsabilités à la maison », a précisé l'entraîneur. « Ce n'est pas une mauvaise affaire. Tu vieillis, tu deviens plus tranquille un peu. » C'est ce qu'il a en tête lorsqu'il parle de maturité, nécessaire pour trouver l'équilibre entre les rôles d'athlète professionnel, de papa et de conjoint. Ce sont des responsabilités qu'un adulte est capable de gérer en vieillissant, a repris Saint-Louis. À 18, 19 ou 20 ans, je ne suis pas sûr, tes priorités ne sont pas à la même place. Par la force des choses, la présence d'enfants dans le vestiaire témoigne de l'avancement en âge de l'effectif du moment. Alexandre Carrier a avoué avoir été surpris à son arrivée à Montréal de croiser si peu de bambins. À Nashville, où il a disputé la première partie de sa carrière, il y en avait une vingtaine, peut-être une trentaine. Et c'est beau de voir des enfants courir partout dans le vestiaire, a-t-il lancé. Noah Dobson a observé la même différence en passant des Highlanders de New York aux Canadiens de Montréal l'été dernier. À Long Island, il était parmi les plus jeunes joueurs dans le vestiaire. Il prenait plaisir à jouer avec les enfants de ses coéquipiers et à apprendre des pères autour de lui. Ceux qui ont des enfants plus vieux témoignent du bonheur qu'ils éprouvent, justement, à pouvoir partager cette facette de leur vie avec eux. Ça fait chaud au cœur. Avoue Philippe Dano, heureux de voir son garçon et sa fille qui ont grandi à Los Angeles, comprendre la religion que représente le hockey au Québec. Martin Saint-Louis, quant à lui, s'émeut de voir la famille du Canadien s'agrandir. Il parle en connaissance de cause. Jusqu'à sa retraite comme joueur, ses garçons avaient 7, 10 et 12 ans. Ils ont donc eu leur entrée dans le vestiaire du Lightning de Tampa Bay, puis celui des Rangers de New York. Ça a été ma partie favorite de partager ma carrière dans la Ligue nationale de hockey avec mes enfants, dit-il. Il n'y a rien de bon dans la vie si on ne peut pas le partager. Avoir été dans le vestiaire avec moi, autour de mes coéquipiers, ce sont des souvenirs qui les suivront toute leur vie. Voir ces joueurs changer des couches l'amène-t-il à se sentir vieux? « Pas du tout, » répond-il. « Je n'ai pas besoin de ça. Je sais que je vieillis. » Illustration facile. Le matin de l'entrevue avec la presse, le tricolore s'apprêtait à affronter les Prédateurs de Nashville, dont le défenseur Ryan Ufko, à l'adolescence, avait évolué avec le fils aîné de Saint-Louis sous les ordres de l'actuel entraîneur du Canadien. Ça, c'est un bon rappel. Vous écoutez « Discussion de poussette dans le vestiaire », un texte de Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois, paru le 9 avril 2026 dans la presse. Quand jouer à la maison prend tout son sens. Comme bien des athlètes de haut niveau, Mike Matheson a un côté perfectionniste, et pas seulement sur la patinoire. Avant, je rentrais chez moi, il n'y avait pas beaucoup de moments où je ne pensais pas au hockey. Quand tu deviens parent, ça te donne d'autres buts, d'autres aspects où tu veux être parfait. Ça m'aide à oublier ce qui est arrivé à l'aréna. Ce que Matheson vit avec ses enfants de 2 et 5 ans, Martin Saint-Louis l'a vécu à une autre époque, avec ses trois fils, maintenant jeunes adultes. Ça aide à décrocher un peu, à prendre une pause. Tu arrives à la maison, ton kid sourit, il veut jouer, tu t'en occupes et ça aide à décrocher mentalement. Se souvient-il. Saint-Louis en a d'ailleurs glissé un mot à Jake Evans, père de jumeaux depuis l'été dernier. Son conseil. N'amène pas les mauvaises journées de l'aréna à la maison pour les enfants, relate Evans en entrevue avec la presse. Les futurs papas du Canadien goûteront bientôt à ces bénéfices, que la science confirme, rappelle Joël Carpentier, professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'ESG UQAM. Avant, la parentalité, souvent la seule identité d'un athlète, c'est son sport, c'est d'être un joueur de hockey, dit Mme Carpentier. Soudainement, il n'y a plus que le rôle de joueur de hockey qui importe et ça aide à remettre les choses en perspective. Elle évoque l'exemple de Cole Caulfield dont la quête d'un 50e but a tétanisé la ville pendant une semaine. À Montréal, une petite chose peut devenir une tempête. Tu te dis que maintenant, tu vis des choses pas mal plus importantes, rappelle Mme Carpentier. Il n'y a toutefois pas que du positif. La professeure Carpentier nomme la culpabilité de s'absenter de la maison pendant de longs moments, de même que les distractions qu'on essaie généralement de limiter autour d'un athlète. C'est sans oublier le coût physique, la fatigue, le sommeil. Les joueurs sont des humains. Quand ils jouent à domicile, ils sont à la maison, donc ils vivent leur vie. Des athlètes doivent parfois faire un compromis entre performer le plus comme athlète et être le meilleur père, et certains trouvent ça dur de jongler constamment avec les deux. Avec deux bébés pour le prix d'un, Evans rattrape son sommeil dès que l'occasion se présente. À la maison, ma vie est complètement changée. Je ne regarde plus la télé. Hier, j'ai passé la journée sur le plancher avec les bébés et je suis allé au lit à 20h30, racontait-il le mois dernier. Les pères dans l'équipe sont toujours contents quand on part sur la route parce qu'ils savent qu'ils vont bien dormir, ajoute Noah Thompson qui attend la cigogne pour l'été. Matheson rappelle quant à lui que sa conjointe, Emily, a elle-même joué au hockey. Elle a représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de 2018. Elle comprend de quoi j'ai besoin comme joueur, estime le numéro 8. J'ai parlé des sacrifices qu'elle a faits. Oui, elle a arrêté de jouer, mais c'est bien plus que ça. Les nuits avant les matchs, les jours de match, elle savait que je devais dormir. Réseau social. Au jeu de Milan, le podium de l'épreuve masculine des bosses a fait le bonheur des photographes. S'y entassaient le Québécois Michael Kingsbury, le Japonais Ikuma Orishima et l'Australien Matt Graham, chacun avec son bébé dans les bras. L'image a fait le tour du monde, en raison de sa puissance. Le message envoyé, c'est que tu peux être un athlète d'élite tout en étant papa, note Joël Carpentier de l'ESG UQAM. En fait, cette image incarnait un aspect crucial de la parentalité, le réseau de soutien que les joueurs du Canadien développent organiquement ces derniers temps. On en parle moins pour les papas, ajoute Mme Carpentier. Comme ils sont dans une même équipe, ça crée ce tissu social. On n'aurait peut-être pas eu cette discussion dans les années 1980, quand c'était plus normal que le père quitte la maison pour ramener un revenu. Dans le cas qui nous occupe, le nombre fait visiblement la force et peut renforcer la notion du « papa plus impliqué » dans un monde sportif du gros gagne-pain, détaille la professeure. Quand plusieurs dans un groupe le vivent, ça aide à changer la norme. Comment faire pour satisfaire les attentes de performance tout en étant un papa moderne? S'il y a un ambassadeur pour le double rôle, s'il y en a un qui peut démontrer qu'il est possible de marcher et de mâcher de la gomme en même temps, c'est bien Mike Matheson. Pendant que sa vie à la maison était chambardée, le Québécois s'est carrément réinventé sur la patinoire. De défenseur purement offensif, chef d'orchestre de l'avantage numérique, il est devenu la conscience défensive du groupe. Cela dit, aussi appliqué soit-il, ses priorités sont claires. Le hockey représente tout pour moi, mais si j'avais à décider entre mes enfants et le hockey, ce serait mes enfants, c'est sûr. Je pense que tous les parents prendraient cette décision-là. Dans un sens, ça m'aide à relâcher un peu de la pression que je m'imposais. C'était « Discussion de poussette dans le vestiaire », un texte de Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois, paru le 9 avril 2026 dans la presse.
L'axolote, un animal fascinant. Un texte de Vincent Bigras, paru en 2022 dans Le Voyageur. Corps et attitude. L'axolote ressemble beaucoup à une salamandre tigrée. Il a 6 branchies et une longue queue très mince. À la naissance, l'axolote mesure à peu près 1 mm. Il peut atteindre une taille de 30 cm. Il a des poumons qui lui permettent de demeurer 3 ans en dehors de l'eau. Il existe 3 sortes d'axolotes. L'axolote de forme sauvage, qui est souvent brun ou bleu et qui vit dans les lacs. L'axolote leucistique, qui est rose, blanc, avec des yeux noirs bleutés, et il vit dans des grottes ou des lacs souterrains. Enfin, il y a l'axolote albinos, qui est blanc ou doré, avec des yeux rouges. Ce dernier existe seulement en captivité. Il a été créé dans un laboratoire américain en 1950 grâce au croisement d'une salamandre tigrée et un axolote. Il aime beaucoup se cacher sous des branches ou dans des petits trous dans des roches. Mon axolote adore se cacher dans mes petits coraux dans mon aquarium. Il aime aussi se cacher dans des petits trous ou dans des petites fentes entre les roches. L'axolote est menacé d'extinction. Il n'en reste pas beaucoup dans le monde. Pour rendre un axolote heureux, ça lui prend un endroit frais et calme, beaucoup d'obscurité, ainsi que de l'eau froide. C'était « L'axolote, un animal fascinant ». Un texte de Vincent Bigras, paru en 2022 dans Le Voyageur.